Archivif ou comment les archives départementales de l'Ardèche éclairent le présent. Un magazine en partenariat avec le département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Archivif, le magazine qui invite à comprendre comment les archives éclairent le présent. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet passionnant, source d'étoiles dans les yeux et de lasso dans les cheveux pour d'innombrables enfants, l'archéologie. Ce trépidant parfum d'aventure est-il fidèle à la réalité passée et présente? Les fouilles archéologiques, comment ça marche? Et un trésor découvert dans son jardin, comme une grotte ornée par exemple, à qui appartient-il? Pour creuser toutes ces questions et bien d'autres, et pour voyager entre passé et présent, deux invités. Comme toujours, puisqu'elle est notre fil d'Ariane qui explore les méandres labyrinthiques des archives départementales pour en dénicher les meilleures pépites, Juliette Gauthier, sa directrice. Bonjour Juliette.
Bonjour Sophie.
Merci d'être avec nous. Et en plus, également avec nous, Nicolas Latteur, archéologue, responsable du service archéologique départemental et des collections de muséales.
Surtout des collections de muséales. On est une chef de service qui fait très bien son travail.
D'accord, je retire donc.
Bonjour Sophie.
Bonjour. Une première question pour vous Nicolas. Quelles sont les missions aujourd'hui d'un service de l'archéologie? Est-ce que vous travaillez avec un chapeau et une veste en cuir?
Ça dépend des jours, ça dépend du contexte. Non, blague à part, les missions d'un service d'archéologie, en particulier d'une collectivité territoriale, sont assez diversifiées. Tout dépend, en fait, j'ai envie de dire, de la collectivité. Ça peut être à la fois un département, ça peut être une commune. On compte aujourd'hui environ 70 services de collectivité territoriale en France. Et tout va dépendre, en fait, de la collectivité, de la politique publique culturelle qui est menée, puisque c'est une volonté politique que se doter d'un service d'archéologie départemental. Et puis tout va dépendre également des moyens qui vont être alloués, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels.
Et pour un département?
Et pour un département, on va dire que les missions qui composent le fonds commun, c'est le diagnostic et la fouille d'archéologie préventive, voilà, en amont des travaux d'aménagement du territoire. Et après, gage à chaque service de développer ses propres missions en fonction de ses appétences et de la qualification de ses agents. Ça peut être de la médiation, de la valorisation du patrimoine, des interventions auprès des scolaires, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment. Pour ce qui nous concerne, nous, service archéologique départemental de l'Ardèche, on a la chance d'intervenir sur toute la chaîne patrimoniale, depuis la découverte, donc via les diagnostics, via les expertises, puisqu'on intervient aussi auprès de particuliers pour réaliser des expertises scientifiques dans le cadre de découvertes archéologiques. On intervient également dans la chaîne d'études, de conservation. On fait faire des restaurations du patrimoine aussi pour présenter les objets au public. Et puis, on a toute une phase de valorisation et de médiation qui est la restitution au grand public.
On a entendu que vous parliez d'expertise. Alors, est-ce que l'archéologie a toujours été justement l'apanage de spécialistes, d'experts, avec une méthodologie, une démarche scientifique?
Alors, elle a longtemps été le terrain d'érudits, de savants, qui étaient spécialisés en histoire de l'art, en géologie aussi, mais pas de vrais archéologues au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens où Nicolas est un vrai archéologue. La meilleure figure pour l'illustrer, c'est sans doute celle de celui qui a été le premier à fouiller sur le site d'Alba la Romaine, ou APS, comme on l'appelait à l'époque, Honoré Flaugergue. C'est celui qui s'est vu confier en 1819 donc ses premières fouilles par le préfet. Mais en fait, Honoré Flaugergue, on le connaît surtout pour bien d'autres choses que l'archéologie. Alors déjà, c'était un homme d'État, c'était un magistrat. Il était juge de paix à Viviers, donc c'était lui qui réglait les petits conflits de voisinage entre les habitants de Viviers. Mais surtout, on le connaît parce qu'il était astronome. C'est lui qui a découvert la grande comète de 1811. Donc vous voyez que ses terrains d'expertise étaient assez variés.
Mais ne sommes-nous pas des poussières d'étoiles ? La profession même d'archéologue, l'archéologie se professionnalise au cours du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, c'est bien ça?
Oui, voire même après-guerre, hein, après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment à ce moment-là qu'on observe une véritable professionnalisation de l'archéologie en lien avec le développement des antennes CNRS, des universités aussi, des laboratoires d'universités. Aujourd'hui, c'est un véritable métier, voilà, c'est important de le dire, hein, ça peut être aussi aussi vécu comme un hobby, mais c'est aussi un véritable métier qui demande une formation professionnalisante, une formation universitaire, qui s'étalonne entre du bac plus 3 et du bac plus 8, avec d'une manière générale un socle commun de connaissances qui s'acquiert les trois premières années hein, pendant la licence, pour permettre aux étudiants et futurs chercheurs d'avoir un bagage commun, une culture G autour du patrimoine, de l'archéologie, de l'histoire de l'art, parce que c'est souvent couplé avec cette discipline. Et puis on a une spécialisation à partir du master autour de deux filières, la filière professionnelle qui permet après d'intégrer des services d'archéologie territoriale comme la nôtre par exemple, mais également des opérateurs d'archéologie comme l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, ou des sociétés privées, puisqu'en France, depuis le début des années 2000, l'archéologie est ouverte aux sociétés privées, donc ça peut être aussi cette filière-là. On a une deuxième voie, qui est la voie de recherche, qui permet après d'intégrer des unités de recherche du CNRS, par exemple, ou des postes de maître de conférence en université. Donc c'est la filière recherche qui se développe sur un bac plus 5 et un bac plus 8.
Il y a à peu près aujourd'hui 2000 archéologues dans la filière publique et 700 dans la filière privée.
C'est ça, à peu près.
On parle beaucoup aujourd'hui de fouilles programmées. Est-ce qu'on a toujours pensé l'archéologie comme ça ?
Alors le terme de fouille programmée, il a évolué dans le temps. On ne le définissait pas exactement de cette manière-là, mais ces fouilles qui avaient pour but d'aller chercher dans des sites majeurs, elles ont débuté dès le 19e siècle. Alors aux archives départementales de l'Ardèche, nous, le premier rapport de fouille, qui ne porte pas ce nom-là, mais vous voyez de quoi je parle, le premier rapport de fouille, il date de 1819, il porte sur le site d'Alba la Romaine. Et alors je vous en livre les premières lignes, puisqu'on va voir que ça a beaucoup changé quand même. L'an 1819 et les 12 et 19 décembre, nous, Lustron aîné, expert géomètre domicilié à Viviers, en exécution des ordres transmis à Monsieur Flaugergue par Monsieur le préfet de l'Ardèche, nous sommes rendus dans la commune d'Aps à effet d'y reconnaître les endroits convenables aux fouilles qu'on se propose de faire sous les ruines de l'ancienne ville d'Alba. Nous nous sommes rendus sur les lieux, accompagnés de Monsieur le maire, des notables de la commune et de divers particuliers qui ont fait des découvertes, porteurs d'un relevé que nous avions pris au crayon du plan cadastral. Alors je pense que Nicolas nous le dira, mais ça ne se passe plus exactement comme ça.
Oui Nicolas, comment vous préparez les fouilles aujourd'hui ?
Alors effectivement, la méthodologie est quand même radicalement différente, pour plusieurs raisons, hein, entre le 19e siècle et le 21e. C'est que déjà on assiste à une évolution, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi une professionnalisation de l'archéologie et une hyper spécialisation de la discipline, avec plein de branches connexes. En fait, on parle de l'archéologie d'une manière générale, mais en fait c'est un foisonnement de sciences, de champs de recherche qui sont différents, qui s'interconnectent forcément au bout d'un moment, mais qui sont quand même des spécialités très différentes à la base.
Quelques exemples, par exemple ?
La géomorphologie, la paléogénétique, la technologie, la céramologie, la palynologie, donc les spécialistes des pollens, la carpologie, les spécialistes des graines. Voilà, je pourrais vous en citer un paquet comme ça, avec des noms tout aussi poétiques les uns que les autres. Mais ça traduit aussi voilà, une pluridisciplinarité de l'archéologie qui forcément a amené à une évolution des méthodologies. Alors aujourd'hui, on a deux cas différents. C'est l'archéologie préventive que j'évoquais tout à l'heure, qui sont en fait les opérations archéologiques qui sont menées en amont des projets d'aménagement du territoire, sur lesquels on intervient, par exemple, nous, service archéologique départemental, et ce qu'on appelle les opérations programmées dont on vient de parler, qui dépendent plus en fait de l'intérêt, de l'appétence, de la problématique scientifique d'un chercheur, sans forcément que derrière que le patrimoine soit menacé. C'est ce qui fait la différence principalement entre les deux. Et forcément, les méthodologies vont un petit peu différer, quoi qu'il en soit. Dans les deux cas, on va avoir un chercheur qui va proposer une méthodologie pour répondre à l'opération ou à la problématique scientifique auquel il cherche à répondre. Méthodologie qui va se baser sur la pluridisciplinarité de la discipline, sur l'expérience du fouilleur, et donc un dossier, un projet qui est soumis au service de l'État, qui est le ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, qui va évaluer ce projet et donner ou pas son autorisation. Voilà. Sachant que, par ailleurs, pour ce qui relève aussi des opérations d'archéologie programmée, on est soumis aux autorisations de l'État, mais aussi aux autorisations du propriétaire du terrain.
Et justement, là, on a parlé de choses très programmées. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue de faire des découvertes par hasard ? Ce que vous appelez des découvertes fortuites ?
Oui, tous les jours. Tous les jours en France, on a des découvertes, alors qu'ils sont pas forcément toutes à la même échelle. D'un point de vue patrimonial, d'un point de vue l'intérêt scientifique, mais tous les jours en France, on a effectivement des découvertes pour plusieurs raisons, parce que tous les jours en France, il y a de l'aménagement du territoire et la création d'un collège, la création d'une voirie, la reprise d'un réseau d'adduction d'eau, tout cela, ça amène à des découvertes archéologiques qui sont expertisées et évaluées par les services de collectivité ou les services de l'État. Et puis aussi parce qu'il y a quasiment aucune partie du territoire national qui aujourd'hui ne fait pas l'objet de randonnées, de sorties, de visites, d'aménagements. Et donc forcément, on a une présence humaine qui conduit par une observation fine à des découvertes archéologiques. Et puis il y a aussi une partie du monde qui a vocation à être découvert. Là, je pense en particulier à une partie du territoire ardéchois qui est la partie sud, dans laquelle on a des grands plateaux calcaires et des dizaines, même des centaines, des milliers de grottes qui font l'objet d'une pratique de la spéléologie. Et les spéléologues sont des grands pourvoyeurs de découvertes.
On va y revenir dans un instant, ce sujet, les grottes, parce que c'est évidemment ce à quoi on pense presque immédiatement ici en Ardèche. Mais avant, justement, est-ce qu'on a dans les archives, dans les documents, des traces de ces découvertes fortuites?
Alors j'aimerais vous dire qu'on a tout conservé, mais ce serait pas vrai parce qu'on ne documente pas tout. Néanmoins, on en a quelques traces de la mémoire qui parfois rejaillit. Alors soit parce que ce sont des découvertes qui ont été déclarées à une autorité, en général la préfecture, soit parce qu'il y avait des cas plus problématiques qui demandaient d'être tranchés. C'est le cas en 1866, lorsque le maire du Teil écrit au préfet de l'Ardèche « Monsieur le préfet, en 1841, à la suite de pluies torrentielles, une borne romaine portant des inscriptions fut mise à découvert par les eaux d'un ravin situé dans la commune du sieur Crozier Jean-Pierre, propriétaire à Vauveron, commune du Teil. Depuis cette époque, cette pierre est à la même place et le sieur Crozier, s'en croyant propriétaire, l'avait pour ainsi dire vendue à monsieur Valentin, juge d'instruction à Montélimar. Et ce n'est que sur l'opposition verbale de monsieur Guigon, conducteur des ponts et chaussées, que ce marché n'a pas été exécuté. »
Aïe, justement, alors à qui appartient le patrimoine archéologique? Est-ce que c'est à ce sieur Crozier?
Alors, c'est à la fois simple et compliqué.
Oula.
La loi est très complexe là-dessus, elle a beaucoup évolué. J'ai envie de vous dire que d'une manière, sous un angle philosophique, patrimonial, déontologique, le patrimoine, c'est ce qui du coup fait sens au sein d'une nation, c'est ce qui retrace l'histoire, c'est ce qui appartient à tous les citoyens, pardon, et c'est ce qui est censé se transmettre au fil des générations pour constituer la nation. Dans la pratique de la conservation et l'étude du patrimoine, on se rend compte que c'est vite beaucoup plus compliqué et que l'intérêt général, puisque c'est ça dont on vient de parler, se confronte assez rapidement à la notion de propriété privée. Voilà. Ce qui peut très vite complexifier les choses. Alors, sans reprendre l'histoire de la législation relative à l'archéologie, on a une loi qui est passée en 2016 qui s'appelle la loi LCAP, c'est la loi de la liberté de création, de l'architecture et du patrimoine, qui, on va dire, définit deux cas de figure. Le premier, et en fait tous les deux sont étroitement liés à la propriété du terrain et à son acquisition. Donc le premier cas de figure, c'est une découverte qui aurait lieu sur un terrain dont l'acquisition par les propriétaires s'est faite avant 2016. Dans ce cas de figure, le propriétaire et l'inventeur, selon la nature de la découverte en fait, peuvent revendiquer la propriété des biens après un délai d'étude raisonnable. Un délai de 5 ans, c'est le délai qui est défini par l'État, qui est le délai, qui permet une étude du patrimoine et sa documentation et sa transmission au reste des citoyens. Le deuxième cas de figure, c'est une découverte qui a lieu sur un terrain dont l'acquisition par les propriétaires a été faite après 2016, et là, dans ce cas de figure-là, c'est l'État qui est présumé propriétaire de fait, donc dans l'intérêt général, afin de pouvoir conserver et présenter au public le patrimoine.
Moi, je pensais d'ailleurs que c'était tout le patrimoine. Enfin, je croyais que c'était rétroactif. Comme
non, justement, ils n'ont pas voulu, comme étant rétroactif, ou pas non ouais. plus polier trop de personnes.
Ouais, ça aurait été.
Mais en fait, c'est une loi qui a été prévue comme étant pas évolutive, mais qui se projette déjà sur deux générations. C'est-à-dire que dans 40 ans, en fait, les transitions du foncier ayant eu lieu, en fait, toutes les découvertes seront sous la responsabilité de l'État.
Ah, et ça marche pour une succession.
Oui.
Ah oui, ouais, bah oui, pratique.
Et oui. Alors, on reprend justement ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on pense à archéologie, on pense forcément aux grottes, surtout ici en Sud-Ardèche. Vous avez parlé des plateaux calcaires, Nicolas. Je crois que vous avez une relation particulière à la grotte Chauvet.
Oui, ben effectivement, alors je vais dire que j'ai la chance de faire partie depuis 2018 de l'équipe scientifique internationale qui étudie la grotte Chauvet. J'ai intégré cette équipe avec comme mission, puisqu'on répond à une mission de service public, pour mission d'étudier les vestiges au sol, en particulier les traces de fréquentation humaine et animale qu'on rencontre dans la grotte Chauvet. Donc ce sont les empreintes de pieds humains, ce sont les empreintes animales laissées par la fréquentation par exemple des ours, les polis, les beaux, donc les petits nids qui vont se créer pour passer l'hiver au chaud, les traces de griffades, enfin tout ce qui nous permet de documenter l'évolution et le comportement des hommes et des animaux dans le milieu souterrain.
Juliette, est-ce que vous avez retrouvé des récits de ces découvertes dans les découvertes des grottes?
Alors, pas vraiment de découvertes, mais en tout cas d'exploration. Ça, on en conserve un certain nombre. Il y a quelques années, on a acquis aux archives départementales le fonds Jules Ollier de Maréchard, qui est un archéologue bien connu en Ardèche. Et dans sa correspondance, on a quelques témoignages, comme dans cette lettre de 1870, où il nous parle de son exploration de la grotte de Saint-Marcel. Et il raconte « Vous arrivez ensuite aux grottes de Saint-Marcel, splendide tunnel de chemin de fer, naturellement creusé dans la montagne et relié entre eux par des échelles en fer de 18 mètres de hauteur, à l'extrémité desquelles on s'engage dans un méandre de colonnes de stalactites et de pendentifs d'une cristallisation nacrée admirable et brillant de mille feux, éclairée par des torches comme un vrai palais de cristal. » Et toutes ces descriptions, elles sont un peu de ce type-là, vraiment un émerveillement assez exceptionnel devant ces découvertes.
On peut l'imaginer, puisque nous-mêmes, en tant que, quand on a la chance de voir ces grottes en tant que spectateur, ça nous fait le même effet, ça vous fait le même effet à vous après toutes ces explorations.
Oui. Moi, j'ai la chance de jamais être blasé dans ce genre de contexte, parce que c'est vraiment des sites qui sont tous différents. La grotte de Saint-Marcel, on vient d'en parler, est incroyable. 64 km de réseau. C'est un des plus grands réseaux d'Europe, avec des dimensions qui sont supérieures à celles des couloirs de métro à Paris. Donc on sent vraiment très petit. On peut comprendre la description de Julie de Maréchard, hein, parce que le monde souterrain appelle assez souvent à la poésie, parfois au fantasme. Enfin, il y a plein de choses qui relient l'humain au monde souterrain. Un imaginaire certain, et quand on voit la qualité de conservation de ces milieux, la qualité de conservation du patrimoine archéologique en milieu souterrain, Chauvet par exemple, hein, c'est une expérience incroyable, on a l'impression de rentrer dans une grotte qui a été abandonnée hier, tellement les vestiges sont frais. Mais oui, effectivement, le milieu souterrain c'est très particulier, et c'est souvent, si ce n'est toujours, une expérience unique.
Il y a une trentaine de grottes ornées dans...
Une vingtaine de grottes ornées qui sont inscrites au titre des monuments historiques et qui sont sur une voie de classement monument historique. Et c'est ce qui fait aussi la particularité des gorges de l'Ardèche et du sud de l'Ardèche, hein, pour une région un petit peu au même titre que la Dordogne, par exemple, avec la Dordogne, ou les Pyrénées, où on a des concentrations de grottes ornées, de sites archéologiques préhistoriques remarquables. Et ben, c'est vrai que la grotte Chauvet a tendance à éclipser un peu les autres, mais on a derrière un très beau patrimoine qui jalonne les 24 km de gorge.
Et pour terminer cette émission, vous avez évoqué la poésie, les imaginaires. Alors Juliette, un archéologue vu par un archéologue au XIXe siècle, ça donne quoi ?
Alors ça donne ce poème dont je vous donne lecture, vous en serez juge. Le sauvage dans les savanes, avec son admirable flair, comme sur l'herbe on voit le pas des caravanes, de son ennemi trouver une trace dans l'air, de même en parcourant l'espace où sans rien voir l'ignorant passe, le savant découvre ce que le temps voit là. Ses révélations nous donnent le vertige, quand du doigt montrant un vestige, il dit « un peuple a passé là ». Et ce poème, on l'a trouvé dans le fond, Jules Ollier de Maréchard. Est-ce qu'il est de lui ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, il n'est pas signé.
On a envie de prendre son chapeau, sa veste de cuir et de partir sur ses traces. Merci à tous les deux. Merci Juliette Gauthier, directrice des archives départementales de l'Ardèche. Merci Nicolas Latteur, archéologue, responsable des collections du Musée Halle. Merci d'être venu dans cette émission et de nous avoir éclairé sur le rôle du département dans l'archéologie. Vous retrouverez cette émission, comme tous les archivifs, en réécoute sur le site des trois radios partenaires, RDB, RCF et Fréquence 7. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode en direct.
Archivif, ou comment les archives départementales de l'Ardèche éclairent le présent. Un magazine en partenariat avec le département de l'Ardèche.